Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle série de vidéos de la Microsoft Virtual Academy intitulée Windows 10, quoi de neuf pour les développeurs. Je m'appelle Alex Danvy, je suis Technical Evangelist chez Microsoft avec comme sujet de prédilection l'Internet of Things et puis le cross-platform. Mon rôle chez Microsoft est d'accompagner tous ceux qui veulent créer des solutions sur nos plateformes, faire en sorte qu'ils aient la meilleure expérience possible, leur expliquer quelles sont les possibilités, où est-ce que Microsoft va sur tel ou tel domaine, et faire en sorte qu'ils aient la possibilité de créer les meilleures solutions possibles, les plus pertinentes et le plus vite possible. Alors vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon blog danvy.tv et puis interagir avec moi sur Twitter. J'aurai grand plaisir à tenir compte de vos feedbacks et à préciser un certain nombre de choses que je n'aurais pas dites éventuellement dans ces vidéos. Pour suivre cette vidéo et pouvoir refaire l'exercice chez vous tranquillement, il vous faudra un PC avec Windows 10 Technical Preview en build minimum 10041. J'utiliserai personnellement la version 10061. Il vous faudra aussi le Visual Studio 2015 Technical Preview en version 6, donc c'est la sixième CTP comme on dit. Et puis enfin, il faut rajouter par-dessus cela les Windows 10 Technical Preview Tools qui vous permettront d'avoir accès au SDK complet de Windows 10. Enfin, sachez que comme nous irons assez vite sur certaines parties, il faudra savoir un peu manipuler Visual Studio et puis avoir des connaissances en C Sharp XAML. Vous retrouverez d'ailleurs des cours dédiés à ces deux sujets sur la Microsoft Virtual Academy, donc n'hésitez pas à faire en préalable à cette série de vidéos dédiées à Windows 10 des cours sur la partie Visual Studio C Sharp XAML. Cette série Windows 10 Quoi de neuf pour les développeurs est décomposée en 6 modules distincts. Après avoir traité le premier module Plateformes et outils, dans lequel nous avons un peu dressé le décor, vu ce que pouvait nous apporter la plateforme et les outils en l'occurrence, nous allons travailler sur le deuxième module, à savoir l'anatomie d'une application. Petit rappel bref sur la plateforme, puisque nous l'avons vu plus en détail dans le premier module. Windows 10 aura la capacité de s'exécuter sur de très nombreux périphériques, tous très différents, avec clavier, sans clavier, au touch pour le smartphone et la tablette par exemple, mais aussi avec des gestures pour par exemple HoloLens ou la Xbox. Donc vraiment cette capacité à s'exécuter sur énormément d'appareils complètement différents et toutefois de faire en sorte de nous procurer une seule et même plateforme avec l'ensemble des services mis à notre disposition pour pouvoir justement créer des applications Windows Apps donc, qui soient facilement réalisables et qui s'exécutent sur l'ensemble de ces périphériques. Donc, rentrons maintenant plus en détail dans une application. Pour créer une application, rien de plus simple puisqu'il suffit dans le Visual Studio de faire fichier nouveau projet et pour atterrir sur cette très célèbre boîte de dialogue qui de fait met à notre disposition un nouveau groupe de projets, ici Windows 10, composé de quatre modèles d'applications différentes. Le premier, la Blank Application, est en fait une application vide qui s'exécutera de façon visuelle et qui sera vraisemblablement le projet le plus utilisé. Le deuxième, qui est la Class Library, nous permettra lui de créer des librairies de code partagées entre les différents projets Universal App Platform. Le Windows Runtime Component, lui, est une forme d'exécutable non visuel qui nous servira à construire par exemple des composants réutilisables quel que soit le langage ou alors des composants qui s'exécuteront en tâche de fond sur le système d'exploitation. Et puis enfin, un nouveau projet de type Unit Test App qui nous permettra de réaliser des tests unitaires, donc du code qui testera le code des autres projets. Alors, voici à quoi ressemble un projet Universal App Platform ouvert dans le Visual Studio. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec Windows 8 auront vraisemblablement reconnu une structure totalement similaire. Il y a toutefois quelques petits points qui vont distinguer les deux projets. Tout d'abord, dans les properties, vous noterez l'apparition d'un fichier qui s'appelle default.rd.xml. Ce fichier a pour objectif de définir l'ensemble des paramètres qui serviront au compilateur .NET native à compiler l'application avec les options qui nous intéressent. Donc, .NET native, c'est un tout nouveau compilateur qui va permettre de compiler une application réalisée en .NET, donc ici une application Universal App réalisée en C#, dans du code natif directement exécutable. Précédemment, le code était une sorte de P-code exécuté par le runtime .NET. Cette fois-ci, nous allons donc gagner en performance sans effort particulier, puisque ce compilateur va faire en une seule passe tout le travail nécessaire pour que la plateforme puisse bénéficier de toutes les subtilités et d'un code binaire exécutable directement. Ensuite, la section Références, vous noterez de nouvelles références de type .NET for Windows Store Apps et surtout les Universal App Platform. Ces deux références sont les références minimales pour créer un projet Universal App Platform. Si au premier abord ça ressemble énormément à l'utilisation de références classiques dans un projet Windows Store, vous verrez qu'il y a derrière cela une mécanique tout à fait particulière. Toujours un répertoire asset qui est totalement équivalent, toujours un point d'entrée app.xaml et app.xaml.c#, enfin .cs pardon, qui contiendra le point d'entrée de l'application. C'est là que nous mettrons le code qui s'exécutera dès le lancement du cycle de vie de l'application. On a mis à votre disposition une première page, la main page. Vous pouvez la créer vous-même, la modifier, changer un petit peu tout ça, mais dans l'idée, ça fait un très bon point d'entrée aussi pour la partie visuelle cette fois-ci. Le package AppX Manifest, il est là. C'est lui qui va déterminer l'ensemble des paramètres qui vont être utilisés pour finalement que votre application puisse avoir un certain nombre de paramètres tels que les icônes à utiliser. Et autres, et la description. Le fichier qui porte le nom de votre projet, underscore temporarykey.pfx, qui est le manifeste qui servira à signer votre application. Et puis si on rentre plus en détail, cette fois-ci, dans le source du projet de votre application, vous verrez que dans le projet, dans la section projet et property group, nous aurons trois entrées nouvelles qui sont le Target Platform Identifier, Target Platform Version et Tablet Platform Min Version, qui représentent donc le lien qu'il va y avoir entre votre application et ce sur quoi il est prévu qu'elle s'exécute. Donc là, vous pouvez saisir en effet UAP pour dire que vous souhaitez que ce soit une application Universal App Platform et qu'il requiert en fait une exécution sur au minimum une version. Donc là, ici, la 10.0. 10030.0 qu'elle a été testée jusqu'à telle plateforme. Donc rien n'empêcherait à ce qu'elle s'exécute sur des plateformes encore plus récentes. Toutefois, c'est une bonne indication pour s'assurer que l'application soit exécutée dans les meilleures conditions possibles. Donc vous voyez qu'ici, nous ne visons pas un OS à proprement parler, ce n'est pas une application pour Windows 8 points, telle et telle version. Mais c'est vraiment une application qui requiert une plateforme particulière. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de plateforme? En fait, lorsque je vais indiquer que mon application va requérir la plateforme UAP, derrière cela, il y a une définition de ce qu'est cette fameuse plateforme UAP. Vous retrouverez le fichier sur votre disque. Là, ici chez moi, ce sera un C Program Files, Windows Kit 10, plateforme UAP et puis le numéro de version. Vous noterez qu'en fait, il s'agit d'un regroupement de contrats, et ce qui signifie que lorsque mon application va reposer sur l'UAP, on va s'assurer qu'elle ait au minimum la mise à disposition ici des contrats indiqués, comme par exemple la partie fondation, les API Universal App et puis de la connectivité. Et puis, puisqu'il n'y a pas que la partie universelle, le cœur à proprement parler, qu'il y aura des extensions, comme je vous en ai parlé dans le premier module, il va falloir décrire cette notion d'extension. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour rajouter une extension dans votre projet, ça ressemble étrangement à l'ajout d'une référence pour une assemblée totalement standard. Simplement, cette fois-ci, vous irez dans la section Universal App Platform, dans la partie extension. Et vous voyez ici, j'ai coché la partie Windows Mobile Extension SDK. Et ceci va s'ajouter donc à mon projet. Vous le retrouverez là. Et à l'intérieur de mon projet, je vais avoir une entrée supplémentaire, donc un SDK référence, dans lequel on va indiquer le nom, en l'occurrence, de l'extension du SDK, et puis un nom en clair qui pourra s'afficher dans le Visual Studio. Alors, ces extensions, en fait, sont là pour étendre le modèle de Universal App Platform, pour être capable aussi de viser des plateformes très spécifiques. Imaginez que sur une carte Raspberry Pi 2, par exemple, je vais avoir accès à un certain nombre de services, typiquement l'accès au GPIO, par exemple, pour avoir les entrées-sorties de cette carte, chose que je n'aurais pas accès, par exemple, sur un smartphone. Donc pour cela, en effet, j'utilise une extension particulière, et cette extension visera bien une plateforme. Alors, l'intérêt aussi, c'est d'être capable de mettre à jour ces extensions avec un rythme complètement différent de celui du cœur. On peut imaginer un cœur beaucoup plus stable, utilisé par tous, et puis régulièrement des mises à jour ou des prises en compte de nouvelles possibilités ou de nouveaux matériels à l'aide d'extensions OSDK. Ces extensions sont donc activées pour chacun des périphériques. Chaque périphérique dira quelle extension il est capable de mettre en œuvre. Alors, comme vous aurez un projet qui va référencer plusieurs extensions, des extensions qui pourraient sembler antinomiques, admettons que j'utilise l'extension Windows Mobile et l'extension IoT, je ne vais pas retrouver les fameuses GPIO sur mon smartphone, mais je ne retrouverai probablement pas la couche téléphonie sur mon Raspberry Pi 2. Donc, comment faire pour faire face à cette problématique? Eh bien, je vais pouvoir faire appel à des API, les API Information, qui vont me mettre à disposition un certain nombre de méthodes qui me permettront de tester en fait la disponibilité de telle ou telle fonctionnalité ou de telle ou telle API. En l'occurrence, certaines vont être assez globales, comme par exemple la possibilité de tester la disponibilité d'un namespace, donc d'un espace de nom complet. D'autres vont être beaucoup plus précises pour me permettre de tester la présence d'une propriété précisément ou d'un type par exemple. Alors, très concrètement, voilà à quoi ça ressemble. Admettons que je sois sur une application qui traite à la fois une application qui s'exécute sur le desktop et une application qui s'exécute sur un smartphone. Donc, il y a une particularité qui différencie ces deux plateformes, à savoir d'un côté la présence de boutons hardware disponibles et de l'autre non. Donc comment je vais faire pour rajouter un événement sur le backpressed des hardware buttons si ceci n'existe pas sur un desktop? Eh bien en fait, je vais tester ici la disponibilité d'un namespace précisément, donc avec les API information.isTypePresent de ce fameux namespace. Je vais m'assurer que les hardware buttons sont bien disponibles et dans ce cas-là, le code que j'indiquerai ici ne s'exécutera que si le namespace sera présent. Donc là, je me garantis de pouvoir utiliser plusieurs extensions du SDK tout en faisant en sorte d'avoir un code qui soit unique et d'avoir de petites différenciations dans ce code pour traiter telle ou telle plateforme. Alors, comme on a vu qu'il y a un projet pour traiter plusieurs plateformes cibles, la question pourrait se poser de savoir, mais est-ce que je peux toujours utiliser l'organisation de code telle que je l'avais avant, à savoir des projets partagés par exemple, des librairies, à savoir aussi des directives de compilation à l'intérieur de ces projets partagés? Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Il y a d'ailleurs le support toujours des directives existantes, à savoir les Windows underscore app et Windows underscore phone underscore app. Mais il y en a une nouvelle qui s'est rajoutée, qui est le Windows underscore UAP. Alors, Il y a souvent des questions qui sont posées à ce sujet-là. Est-ce qu'il y aura un package, plusieurs packages, un package par plateforme éventuellement, ou pas? Là, est-ce qu'il y a un seul exécutable? En fait, la réponse est un peu différente. Il y aura bien un package de générer, mais par architecture. Donc, il y aura un package qui contiendra des exécutables pour la plateforme. Ou l'architecture, pardon, x86. Et si vous cochez, si vous demandez à générer aussi des packages pour une plateforme ARM, eh bien il y aura un autre package qui sera généré. Toutefois, il y a clairement plusieurs extensions qui seront compilées à l'intérieur d'un même package. Donc si je crée par exemple une application qui s'exécute quel que soit le processeur, donc il n'a pas de dépendance particulière sur une architecture donnée, elle sera donc en type AnyCPU. Dans ce cas-là, je n'aurai qu'un package qui contiendra l'exécutable de mon application ainsi que les dépendances pour l'extension SDK. Voyons maintenant sous forme de démo ce à quoi peut ressembler dans le Visual Studio une application UAP et nous reverrons donc plus en détail l'ensemble des points que nous venons d'aborder. Nous voici dans Visual Studio 2015 CTP6 avec les outils du SDK Windows 10 installés. Lorsque je vais faire un fichier nouveau projet dans le Visual Studio, je vais avoir une nouvelle section Windows 10. Ici, quatre types de projets que j'ai décrits précédemment. Donc, je vais sélectionner le premier pour avoir une application vierge, lui donner un nom, ici un MVA Demo. Et cliquer sur OK. Donc là, Visual Studio me crée un nouveau projet, fait en sorte que l'ensemble des fichiers nécessaires soient bien présents, puis je pourrais compiler immédiatement cela, en l'occurrence, pour faire en sorte que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc notez que le process de compilation est sensiblement équivalent à ce qu'il y avait ensuite. Je retrouverai mon exécutable présent ici. Si j'exécute sur ma machine, voici à quoi cela ressemble. Mon application est par défaut fenêtrée. Vous retrouverez ici les compteurs de performance disponibles. Et puis, elle m'affiche un magnifique écran vierge. J'ai fait en quelque sorte le fameux Hello World. Alors, si je regarde un petit peu plus en détail ce que met à ma disposition ce projet, donc première chose, je vais regarder ce qui se passe à l'intérieur du projet en lui-même. Donc pour cela, je vais devoir le décharger pour ensuite pouvoir l'ouvrir ici. Et voir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté. Donc, la structure du fichier XML est tout à fait classique. Les points notables se trouvent ici. Donc, savoir que je vise une plateforme UAP à proprement parler, avec des numéros de version minimum et maximum. Et autre élément que l'on retrouvera ensuite, ce seront dans un property group, ce seront les dépendances sur les différents SDK que l'on verra par la suite. Donc maintenant il me suffit de recharger le projet pour voir quels sont les éléments constitutifs. Donc si je vais sur les propriétés du projet à proprement parler, je vois ici en effet que je retrouve les propriétés de l'assemblée, je retrouve ici la plateforme visée, en l'occurrence ici Windows 8.1, il devrait y avoir UAP indiqué ici, nous sommes dans une version préliminaire, et puis les numéros de version visés. Pour l'instant, je n'ai qu'un SDK d'installé, donc je n'ai qu'une information. Et puis, dans les properties, donc properties, on retrouve l'assemblée info, grand classique, hein, qui nous permet d'indiquer quelles sont les métadonnées de l'assemblée générée par le projet. Mais plus intéressant, un nouveau fichier, le default.rd.xml. Ce fichier contient en fait les directives de compilation pour .NET native. C'est indiqué ici dès le début. En fait, l'intérêt de ce fichier, c'est d'indiquer un certain nombre d'options, de paramètres, qui serviront au nouveau compilateur .NET native, dont le rôle est de compiler votre application en code natif directement et non plus simplement en code semi-compilé et intermédiaire. Donc le but, c'est de faire en sorte d'indiquer des paramètres pour indiquer au compilateur comment vous souhaitez que votre application soit compilée. Il est par exemple possible que pour des raisons techniques, notamment d'exposition de type par votre application ou d'exploitation des métadonnées, que vous souhaitiez par exemple que certains types soient toujours visibles. Alors, Exemple, ici, je souhaite que mon application soit compilée, ça c'est une chose, mais je souhaite aussi que la librairie Microsoft Application Insight, donc qui sert à mesurer les différentes utilisations qu'il pourrait y avoir de votre application, je souhaite que l'ensemble des types ici soit rendu public. Voilà. Donc de ce fait, je vais pouvoir avoir vraiment un paramétrage très précis de ce que je veux générer. Ça ressemble un tout petit peu à ce que nous faisions lorsque nous faisions de l'obfuscation. Avec le style d'obfuscation, il fallait indiquer un certain nombre de paramètres comme cela. Ensuite vient la section référence. Donc dans la section référence, je retrouve la .NET pour Windows Store et puis la Universal App Platform. Ensuite, dans les assets, rien de nouveau, toujours la même chose, toujours un certain nombre de logos et autres. Toujours le point d'entrée app.docxaml, avec de façon très très classique ici une classe application qui est dérivée et mise à votre disposition. Les points d'entrée ici unlaunched qui mettra en œuvre la différente frame qui accueillera vos pages. Notez qu'il y a aussi un nouveau modèle de navigation qui vous permettra depuis la frame de naviguer sans être obligé de passer par un navigation service. Voilà, donc ici vraiment quelque chose d'absolument très classique pour les fiches en elles-mêmes. Voyez ici vraiment encore une fois très classique, je dérive d'une page et puis par défaut la page est vide. Alors notez que dans la version actuelle des outils, je vais rencontrer un problème lorsqu'il s'agira de faire appel au designer visuel de XAML. Donc ici, le problème indiqué est tout à fait classique. Ça ne m'empêche pas totalement de travailler, c'est-à-dire je n'ai pas de représentation visuelle, toutefois je vais pouvoir sans problème modifier le code XAML ici et indiquer exactement ce que je veux. Donc ajoutons ici un simple text block, vous verrez que je n'ai aucun problème, je suis aidé par l'IntelliSense. Donc je vais rajouter mon fameux Hello World et puis je vais lui indiquer une taille de police un peu importante pour qu'on voit clairement ce qui se passe à l'écran. Si j'exécute, ça fonctionnera sans problème. Donc il ne faut pas s'arrêter aux problématiques du designer pour faire son Hello World. Voilà, donc la page tout à fait standard. Vous avez ici toujours un fichier qui vous permettra de signer votre application. En l'occurrence, ici, c'est un certificat de test. Lorsque vous pousserez votre package sur le store, un certificat définitif vous sera affecté, vous garantira que ce qui sera déployé correspond à ce que vous avez vraiment souhaité. Et puis, il y a le package.appxmanifest. Et ce fichier-là inclut un certain nombre de modifications. Notez ici l'ajout d'un nouveau namespace dans ce package qui nous permet de gérer en fait une compatibilité, je dirais, ascendante de ces fichiers XML. Donc un namespace différent, nouveau, qui vous permettra d'accéder à de nouvelles fonctionnalités. Donc ici, par exemple, vous voyez que sur la partie Visual Elements, ils ont été tagués en format UAP. Et nous verrons un peu plus tard dans d'autres démonstrations qu'il a la possibilité d'ajouter de nouvelles fonctionnalités dans ce manifeste avec ce préfixe. Voilà à quoi ressemble un projet, donc vraiment tout à fait classique. Il nous restera à générer un package pour qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Donc pour vraiment vous montrer à quoi cela va ressembler, je vais rajouter ici une dépendance. Donc je vais faire ajouter une référence sur une extension et je vais prendre par exemple Windows Mobile et Desktop. À partir de ce moment-là, je vois la nouvelle référence s'ajouter. Je vais demander maintenant à faire en sorte de générer le package à proprement parler. Donc là, je vais aller dans la section Store et puis créer un package. Donc ce package ne se destine pas au Windows Store. Je vais faire en sorte qu'il soit généré à cet endroit-là, ça me paraît parfait. Et puis, je vais demander en neutral pour que vous voyez en effet, il y a bien un package de générer. Voilà à quoi ça ressemble très précisément. J'ai ici un répertoire avec mon fameux package. Et puisque ce package est finalement un point zip, je vais faire en sorte de voir ce qu'il y a dedans et de vous montrer vraiment très précisément. Donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul exécutable et que je retrouve l'ensemble de mes ressources. Donc il n'y a pas plusieurs ressources pour viser chacune des extensions. Ensuite, si on pousse un petit peu les choses, et c'est de là peut-être que vient la confusion de est-ce que ça génère un package, plusieurs packages, un exécutable ou plusieurs exécutables, c'est que à partir du moment où je vais demander à viser des CPU différents, des architectures différentes, à ce moment-là, vous allez voir que il va y avoir une recompilation qui va s'effectuer et une génération des packages sur chacune des plateformes. Voilà à quoi ça ressemble. Donc je retrouve le package initial que j'avais créé en AnyCPU et puis je vais retrouver un package pour chacune des architectures que j'ai ciblées. Ici en x86, ici en x64 et ici en ARM. Et à l'intérieur du package, je retrouverai exactement la même chose. Donc un seul package, quel que soit le nombre d'extensions. Et puis, à l'intérieur, exactement la même structure, un exécutable. Et puis l'ensemble des ressources. Voilà en gros comment est organisée ici une application. J'ai bien sûr la possibilité de rajouter, comme d'habitude, des dépendances avec des librairies. Ici, par exemple, je rajoute une librairie de code. Et puis, je vais rajouter sa référence dans mon projet initial de façon totalement classique. Ici, je la vois listée dans mon projet. J'ai donc bien la possibilité d'architecturer cela avec un découpage par librairie, mais je pourrais aussi très bien utiliser la partie Shared Project sans aucun problème. C'est toujours, ça reste toujours à ma disposition. Ici, hop. Ici, un Shared Project en C Sharp. Donc, je vais l'appeler MVA Demo Shared. Il a été créé ici et quel que soit le code que je vais pouvoir rajouter ici dans mon projet partagé, je vais de fait le retrouver à un moment donné dès que je pourrai inclure. Voilà, ici ma classe MVA que je vais rendre publique. Et à partir du moment où je vais faire en sorte de rajouter cette référence, ici au Shared Project, je vais pouvoir à l'intérieur de mon projet bénéficier de l'ensemble de mes ressources. Donc je vais appeler ma MVA Shared, MVA Class, elle est bien là. Donc je peux absolument organiser mon code comme je le souhaite. Je pourrais aussi utiliser des directives et faire en sorte que j'aie le plus de flexibilité possible avec ce nouveau modèle d'application. Abordons maintenant la partie design. Forcément, avec l'arrivée de cette plateforme universelle et ses capacités à adresser l'ensemble des appareils qui nous entourent, il va y avoir de nouvelles problématiques auxquelles nous devons faire face, à savoir la possibilité de s'adapter à l'ensemble des écrans, quelle que soit leur taille, quelle que soit la façon de les utiliser. Donc, nous avons ici par exemple un très très bon exemple d'application mail qui a été créée par Microsoft. Donc regardez un peu ce que donne cette application. Là on voit typiquement les trois panneaux classiques, liste de dossiers et la liste des mails et le détail d'un mail. Et puis quand on va commencer à redimensionner cette application, elle va complètement s'adapter au contexte. Ici par exemple la liste des dossiers a laissé place uniquement à la partie liste de mails et preview. Et puis quand je vais continuer à redimensionner cette application, à chaque fois, elle va s'adapter pour faire en sorte qu'elle soit la plus pertinente possible quant à son utilisation. Et puis on voit ici, par exemple, qu'elle a été suffisamment réduite en largeur pour étrangement ressembler à un autre form factor qu'on connaît bien, à savoir celui d'un téléphone. Et forcément, cette application étant totalement adaptée automatiquement et contenu dans un package Universal App Platform, la même application avec exactement les mêmes contraintes de design, va être capable de s'exécuter à la fois sur le bureau et à la fois sur le téléphone. Mais aussi, on pourrait imaginer un scénario dans le sens inverse, où mon application s'exécute sur un écran de taille modeste, une vingtaine de pouces sur l'écran de mon PC de bureau, et puis que donnerait-elle lorsqu'elle s'exécuterait sur un écran de 82 pouces manipulé à deux bras cette fois-ci et non plus juste avec le doigt ou clavier et souris. Eh bien, j'aurais aussi vraisemblablement la possibilité d'adapter mon design, de faire en sorte de changer la taille des polices, de changer la disposition, de rajouter pourquoi pas des fonctionnalités étant donné que j'ai plus d'espace. Donc, nous allons voir dans un module ultérieur comment la plateforme met à notre disposition tous les outils nécessaires pour pouvoir s'adapter rapidement à l'ensemble de ces contraintes de design. La plateforme apporte aussi un nouveau Windows Store. Ce Windows Store apporte un grand nombre de nouveautés. Alors, sans que nous ayons aujourd'hui encore beaucoup de détails, on sait par contre que ce store va vraiment être un méga store en quelque sorte, puisqu'il va regrouper l'ensemble des applications, quelles que soient les plateformes, donc les applications modernes type Windows 10, mais aussi les applications desktop. Et quand on dit cela, on parle forcément des applications et smartphones et tablettes et Xbox et desktop et autres. Donc ça va représenter beaucoup de choses différentes. Et la capacité pour les développeurs d'adresser l'ensemble de ces scénarios et d'avoir un maximum de visibilité. Bien sûr, on continue d'investir énormément dans les facilités de paiement. Le Windows Store est probablement le store qui dispose de plus de moyens de paiement différents, et notamment les paiements avec les opérateurs mobiles. Donc, un utilisateur de votre application n'est pas obligé de disposer d'une carte bancaire pour pouvoir acheter des applications ou des compléments d'applications en in-app purchase, mais il va pouvoir être facturé directement sur la facture de son téléphone mobile. On verra que les stores privés d'entreprise vont s'intégrer dans ce fameux store, qu'on va travailler énormément sur la partie moteur de recommandation pour faire en sorte que vos apps soient de plus en plus poussées, de plus en plus visibles. Et puis, pour donner encore plus de poids et d'intérêt à ce store, on va y ajouter tout ce qui est médias digitaux, à savoir de la musique, des films, avec l'intégration de Xbox Music et Xbox Vidéo à l'intérieur même de ce même store. Les exemples que l'on va pouvoir utiliser dans ces vidéos sont toujours à votre disposition sur GitHub au travers de la démo Windows 10 SDK démo. Donc 100% du code source est disponible et réutilisable puisque sur licence Apache. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. Nous avons fait ça vraiment pour que vous puissiez très rapidement mettre les mains dans le code. Donc amusez-vous avec, à vos forks. N'hésitez pas à partager ce que vous souhaitez partager avec nous. Et puis cette session, donc ce module Anatomie d'une application est maintenant terminé. Nous allons passer maintenant en revue l'ensemble des nouveaux contrôles qui sont mis à notre disposition dans cette preview du SDK Windows 10. Donc rendez-vous tout de suite pour le troisième module.